Bonjour à tous, Karl, Olive, bienvenue, merci d'être avec nous et bonjour. Vous étiez hier dans le Stade de France pour la finale Real de Madrid 1, Liverpool 0, commencé avec 36 minutes de retard. Est-ce que vous saviez, vous qui étiez dedans, ce qui se passait à l'extérieur?
Absolument pas. À 18h15, en arrivant, on a pu faire la fête avec tous les supporters madrilènes et anglais. Et jusqu'au moment où les équipes viennent s'échauffer pour un coup d'envoi à 21h, on se dit qu'à 21h, il y aura le protocole.
Et ils rentrent
Ils
dans les
rentrent
vestiaires.
pour se changer et ils ne reviennent pas. Ils ne reviendront qu'une demi-heure plus tard. Et c'est là qu'on apprend, on ne connaît pas la raison, qu'il y avait un sujet de sécurité. Quelle sécurité, on
Donc
ne sait pas.
le chaos et les violences, c'est après, inadmissible devant les portes. Qui a failli?
Bah déjà, pardon, mais quand vous avez 70 000 supporters anglais qui arrivent à Paris, qu'il n'y en a que 20 000 qui peuvent accéder au stade, il y a un sujet où, quand on n'a pas le ticket, on ne se déplace pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les contrôles ne sont pas faits par les policiers, ils sont bien faits par l'organisation. Donc on a un système qui s'est additionné où tout le monde, finalement, a failli. Mais moi, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. À l'arrivée, il y a...
L'ambulance, c'est qui?
Bah, sur l'ambulance, et aujourd'hui, on charge les policiers. Et ça, on peut apprécier le fait que tout le monde se charge d'envoyer la pilule sur les policiers. Il faut arrêter un petit peu.
C'est
Les
qui
policiers.
alors? C'est qui?
Non, mais les policiers sont là pour assurer la sécurité, monsieur Elkabbach. Ils ne sont pas là pour gazer gratuitement. Ce que je constate, c'est que et j'étais au stade. Oui, ils ont été lacrymogènes. Et j'étais au stade. Et il n'y a pas eu de sujet avec les supporters madrilènes. Parce que peut-être plus disciplinés que les Anglais. Et Dieu sait si on apprécie les supporters anglais. Mais quand j'entends le gouvernement à Londres dire on va faire une enquête, bah, qui commence déjà à expliquer à leurs supporters que quand ils n'ont pas de ticket, on ne se déplace pas et on ne vient pas tenter la fraude.
Oui, mais
Comme on l'a
est-ce que
vu.
ça veut dire qu'il ne faut pas d'enquête? Pour
Bien sûr,
savoir
bien
qui sont
sûr.
les responsabilités de toutes ces défaillances.
Évidemment qu'il faut une enquête précise pour voir en matière d'organisation avec l'UEFA, voir, il y avait 7 000 policiers, c'est 1 pour 10, Jean-Pierre Elkabbach. 1 pour 10 supporters, c'est énorme.
Mais vous ne me dites pas, Karl Olive, qui est responsable? Qui vous dites-vous qu'il y a les
Moi, je suis pas madame,
responsabilités?
je suis pas madame,
D'accord, non, pas les
je suis pas
policiers.
madame
C'est qui?
Soleil.
C'est l'UEFA?
L'UEFA va devoir expliquer pourquoi il n'y avait pas suffisamment peut-être de stadiers, pourquoi le système, peut-être qu'on va le voir, pourquoi le système de billets non imprimés par smartphone était plus compliqué à mettre en place et donc plus facile pour le coup à imiter pour pouvoir donner à quelqu'un qui n'avait pas de billet le fait d'avoir un screen code comme on le voit sur l'écran.
Oui, il faut dire qu'il n'y a pas eu de cadeau pour ceux qui sont venus. Il paraît que les prix des billets...
Oui, mais c'est des prix. C'est le prix d'une finale de Ligue des Champions, Jean-Pierre
C'est-à-dire?
Elkabbach. Ben ça oscillait entre 200 et 700 euros environ. Mais on sait organiser les compétitions en France. On l'a fait à l'Euro 2016. Vous en savez quelque chose. On l'a fait pour la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Hier, il y avait une finale de rugby à Marseille.
Magnifique,
60 000 personnes.
Magnifique la victoire de
Le
La Rochelle.
Formidable. Il y a eu un problème. Non, il n'y a pas eu de problème. On sait organiser en France, mais on n'est pas à l'abri d'avoir Pardon, c'est Roland Garros, un trou dans la raquette.
Oui, j'ai dit pas de cadeau. Les prix des hôtels, il paraît que c'était des exorbitants.
Oui, mais ça, c'est pas le sujet.
Ah oui, mais
Non,
oui,
c'est pas le sujet.
Pour les supporters qui viennent de Londres ou de Londres, il y en a
Non.
qui profitent.
Jean-Pierre Elkabbach, ce n'est pas le sujet. C'est une formidable fête. Et tout le monde s'y retrouve. Et on ne va pas, quand même pas dire aux hôteliers, aux restaurateurs qu'ils ont pu obtenir un peu plus de chiffre d'affaires qu'à l'habitude.
Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait des terroristes dans le coin?
Là, c'est compliqué. D'abord parce que nous, on n'a pas eu l'information en direct dans le stade. Et il n'y a pas eu de mouvement du tout de panique. C'était très calme. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, en termes de communication, c'était un peu plus compliqué.
Mais plus que de communication, de sécurité, même à l'extérieur. Parce que les types ont passé les grilles. Hein, ils ont passé le contrôle des policiers.
Les types
et
ont
des
touché,
stadiers, comme vous dites.
Les stadiers, vraisemblablement, en termes d'organisation UEFA aux portes du stade, il manquait du monde.
Et puis notre collaborateur Clément Piernia pose la bonne question. Quelle image la France donne-t-elle d'elle-même à 2 ans à peine des Jeux Olympiques de Paris?
Oui, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a eu un gros incident et il y aura une enquête et il faudra que les responsables soient identifiés. Pour autant, je rappelle que la finale européenne de rugby a été un formidable succès à Marseille, qu'ici, l'Euro 2016, ça a été un formidable succès, que l'an prochain, il y a une Coupe du Monde de rugby, ce sera un formidable
D'accord,
succès.
D'accord, donc vous êtes tolérant. Ça peut se reproduire, quoi.
Non, ça ne peut pas se reproduire.
Alors
non,
quoi?
Ça peut pas se reproduire.
Qu'est-ce qu'on explique?
Mais moi,
L'indignation? Mais la recherche des responsabilités. Et vous dites, vous aussi, comme les Anglais, une enquête.
Bien sûr qu'il faut une enquête.
Mais de qui, sur quoi? De qui, sur quoi?
Pour voir, chacun a ses responsabilités et où on a pu faillir. En revanche, ne comptez pas sur moi pour jeter l'opprobre sur les forces de
police. Ça va, vous l'avez dit, et ça, c'est évident. Donc, ce sont les stadiers, c'est les saliers qui étaient en nombre insuffisant, l'organisation de l'UEFA. On en a oublié presque le match de foot qui était très beau, avec un but à zéro, hors-jeu.
Oui, c'est un très beau match.
L'arbitre était français, il était excellent, Clément Turpin, mais il n'y avait pas de club français en finale. Pas de club français, alors que le PSG ne manque ni de stars, ni de milliards.
Ça sera peut-être le cas avec Kylian Mbappé qui restera au Paris Saint-Germain. On espère bien que le Paris Saint-Germain puisse
gagner
la Coupe au
Mais un Mbappé ne peut pas faire de la victoire tout seul.
Non, vous avez raison, la star, ça doit être l'équipe. Et c'est ce qu'il faut faire pour qu'on ait un club en institution. Vous avez souligné, je me permets d'insister, la présence de Clément Turpin, l'arbitre français. Première fois depuis 1986 et Michel Vautreau. Et puis Karim Benzema qui, tranquillement mais sûrement, va devenir certainement le prochain Ballon d'Or. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
Et Zidane, il paraît qu'il pourrait être bientôt l'entraîneur du PSG.
J'ai eu la chance de déjeuner avec lui vendredi à Roland-Garros avec les équipes de Jacques Vendroux et Jean-Michel Larquet notamment. On n'a pas parlé de ça, il était là pour supporter...
Non mais votre avis, c'est possible.
Mon avis, c'est que ça va être un petit peu... si vous voulez, personnellement, mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué. Je ne suis pas sûr que Zinedine sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Quelque chose me dit que si Didier Deschamps venait à quitter l'équipe de France, ce serait un tapis rouge. Et puis Zinedine, c'est un Marseillais et c'est un formidable supporter de Marseille.
Mais il y a eu quand même la rumeur. Elle est née par l'ambassadeur et l'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, puis Zidane simultanément à Paris. Et donc on se dit, bon, votre passion de la politique dépasse chez vous la passion du foot et du sport. D'ailleurs, vous en connaissez tous les paradoxes. Vous avez constaté que votre ami Emmanuel Macron, quand il s'exprime, on dit « parle trop ». Quand il se tait, on dit « où il est ». Alors, il est où ?
Vous avez raison, c'est un peu comme le sucre dans le café. Aujourd'hui, plus on le cherche, moins on le trouve. C'est un peu ce qu'on entend sur le
terrain. Première fois qu'on compare Macron à du café ou du marc de café.
C'est ce que vous dites. Quand il est omniprésent comme il l'a été sur le terrain, il se faisait critiquer. Aujourd'hui, il n'est pas moins présent. Il était encore hier avec M. Poutine sur la voie diplomatique sur le règlement du conflit. Exactement, depuis Brégançon. Ce que je constate, c'est que sur le terrain, il faut être présent sur le terrain et faire de la pédagogie et de la didactique auprès des Français.
Il n'est pas sur le terrain, lui. Donc c'est les candidats députés qui...
Oui, enfin, excusez-moi, Jean-Pierre Elkabbach, le président de la République, il ne va pas passer 24 heures sur 24 sur le terrain. À un moment donné, Madame la Première ministre Elisabeth Borne qui a formé son gouvernement, et puis il y a des députés, des futurs députés. Bon,
alors vous parlez d'elle, on a l'impression qu'elle est en hibernation. Qu'est-ce que cache ce silence?
Non, elle est pas en hibernation.
Qu'est-ce qu'on dit à Poissy et dans le pays, à votre avis?
Ce qu'on dit à Poissy, c'est
qu'on s'interroge.
On s'interroge sur la pédagogie, sur le pouvoir d'achat, où on veut des explications un peu plus de terrain. C'est la raison pour laquelle il faut passer beaucoup de temps sur le terrain. Maintenant, l'ouverture officielle, cher Jean-Pierre Elkabbach, c'est demain pour les législatives, même si pour certains candidats, elle est démarrée depuis deux semaines.
Donc vous êtes prêt. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui les macronistes pur jus considèrent que c'est l'adversaire politique numéro un? Est-ce que c'est le Premier ministre virtuel Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, c'est qui?
Ah bah alors là, on parlait du sucre dans le café, mais on peut parler de Monsieur Mélenchon. C'est l'adversaire. Enfin, il faut bien dire aux Français, Jean-Pierre Elkabbach, que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Il faut le dire.
Alors maintenant, c'est vous qui lisez dans le marc de café.
Je ne lis pas dans le marc de café, mais moi, je peux vous mettre un petit billet. Il ne sera jamais Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, vous savez ce film Pulp Fiction, 1994, on est à Cannes en ce moment. Bah, c'est un programme de truand. Aujourd'hui, le programme de M. Mélenchon, il est estimé à 332 milliards de dépenses
supplémentaires.
Oui, Pulp Fiction, c'est l'histoire de truands. C'est ça. Mais quand on dit qu'on veut être Premier ministre, qu'on a fait trois défaites consécutives à la présidentielle, qu'on ne se présente pas à la députation... Non mais, alors, le président Macron parlait de Gérard Majax pour Mme Le Pen. Moi, je pense qu'il y a du Garcimore aussi chez Jean-Luc Mélenchon.
Alors.
Il prend les Français pour des imbéciles. Il prend des Français pour les imbéciles. Il va dire aux chefs d'entreprise, on va augmenter le SMIC de 1500 à 1500 euros. Formidable. Eh bien, ça fait plus 14% de dépenses supplémentaires pour les entreprises. 56 milliards. Ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter le SMIC. Laissez-moi terminer ma démonstration. On va pouvoir augmenter le SMIC sans aucune difficulté. Mais vous allez voir moins d'embauches dans les entreprises, parce que ce n'est pas des philanthropes, les chefs d'entreprise.
Allez, d'accord. Vous méritez le ministère délégué ou le secrétariat d'État au logement, au transport, au numérique qui tourne autour de vous.
Hein bon. J'en sais strictement rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis sur le terrain et que pour l'instant, je fais le boulot sur le
d'accord.
terrain.
D'accord. Mais en espérant y être. Ça... Mais on ne vous dit rien. On vous dit rien.
Mais on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. On a bossé sur le terrain et puis le fruit
tombe. Bon, de ces législatives va sortir une nouvelle majorité de députés. Peut-être vous. L'Élysée et Matignon ont prévenu les ministres qui perd, perd.
Oui, enfin, c'est la règle traditionnelle. On n'a encore jamais vu ou très peu de ministres qui aient été battus aux législatives rester en poste. Finalement, vous savez, quand on est compétiteur et qu'on vient du sport, on sait ça.
Hein. Oui. Je vous parle du cas Damien Abad. Je pense qu'il embarrasse l'exécutif et vous, ses amis. Le parquet n'estime pas nécessaire en l'état d'ouvrir une enquête, mais la pression est forte pour qu'il parte. Qui doit trancher, d'après vous ? Le juge ? La pression, la morale ou les lecteurs ?
D'abord, certainement pas le tribunal médiatique. Et je ne veux pas simplement parler des chaînes de télé. Le tribunal médiatique, c'est aussi le tribunal citoyen. Je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Si M. Abad a fauté, alors il devra payer. Si et seulement si il a fauté. Moi, je me souviens d'un film, pardon de reprendre, mais... Les risques du métier avec Jacques Brel, 1967.
Vous allez beaucoup au cinéma, vous.
Non, mais on est en période du Festival de Cannes. Cet instituteur est accusé à tort par des élèves d'attouchement et de viol. Ça n'a jamais été le cas. Ça a détruit sa vie. Il faut être vigilant quand on est dans des accusations. En revanche, chacun doit prendre ses responsabilités. Et je veux dire quelque chose ici. Je préviens aussi toutes ces bords politiques qui, aujourd'hui, tirent comme un seul homme sur M. Abad. Qu'ils se souviennent aussi que M. Abad, pendant 10 ans, était chez les Républicains. On n'a jamais entendu un mot parler là-dessus.
C'est pas mal de le défendre aujourd'hui, quand il y a la meute. Mais
exactement.
Il faut voir justice.
Vous avez connu ça, non ?
Bon, passons. Le pouvoir d'achat est aujourd'hui rongé par une inflation elle-même provoquée par la guerre d'Ukraine, par les sanctions anti-Poutine qui reviennent comme un effet boomerang dans toute l'Europe. Est-ce que la meilleure solution n'est pas ce que ont proposé hier Scholz et Emmanuel Macron, un vrai dialogue direct Zelensky-Poutine ?
Il faut une voie diplomatique, vous avez raison. D'abord, merci de s'attarder sur le sujet. Des milliers de morts sur le conflit russo-ukrainien.
Des destructions, des blessés de part et d'autre.
Et qui vient irriguer, disons-le, qui vient irriguer l'ensemble des Européennes et des Européens. C'est ce qui se passe ici en France, Jean-Pierre Elkabbach, avec notre dépendance énergétique. Heureusement que nous avons anticipé. La France est le seul pays en Europe où l'inflation n'est pas aussi importante.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut une désescalade des sanctions dont on voit le résultat pour nous.
Il faut d'abord une voie diplomatique, surtout ne pas couper le fil, et c'est ce que souhaite faire le président Macron. Et puis derrière, quand on parle de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, la première étape, c'est le plein emploi. Et il faut continuer à embaucher. 7,3% de chômage en France, c'est un record depuis 2008.
Mais pour qui est cette rencontre ? Et il faut savoir si Zelensky et Poutine peuvent se passer d'avoir en présence ou pas des médiateurs, que ce soit Erdogan, Macron, Olaf Scholz et ou Mario Draghi, l'Italien.
Jusqu'à preuve du contraire, moi je suis ravi que le président de la République soit un pacificateur sur le sujet et un catalyseur pour retrouver le chemin de la paix.
Oui, donc il n'y a pas de Français au Stade de France et il n'y a pas de Français dans les films au Festival de Cannes. Au passage, je le dis, il faut vraiment des sportifs, des champions pour les batailles dont vous parlez tout à l'heure, contre l'inflation, la régression économique, l'injustice sociale. Il faut des champions à la fois en Europe et en France. Est-ce que la France est meilleure que le PSG ?
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le chameau ne voit pas sa bosse et qu'on arrête de se plaindre toujours la bouche pleine, parce que la France est un beau pays.
Oui, bien sûr, mais il faut qu'elle soit encore plus juste,
oui,
plus efficace, quand on va dynamique.
Quand on va vers le plein emploi, qu'on a 750 000 apprentis en France, et c'est un record, on va plutôt vers le bon chemin. Et c'est bien de toujours le rappeler.
Bonne journée et bon dimanche.
À vous aussi, Monsieur Elkabbach.
Merci Jean-Pierre Elkabbach, merci à vous, Carl Olive. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche, en bref, avec Elisa Lukavski.